Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hello les cops!
C'est Chloé
et Tania
et
Justine.
Et aujourd'hui, on va parler de santé mentale au travail.
Bon les cops, on est super contentes de vous retrouver aujourd'hui. Et en plus, aujourd'hui, c'est pour un podcast tout particulier parce qu'on a pour la première fois depuis l'histoire de notre podcast qui date depuis 4 ans, non je rigole. Mais bon, en tout cas, c'est la première fois qu'on a une invitée et c'est Justine qui est du coup une des cops qui écoute le podcast et qui a une histoire très intéressante à nous raconter. On a vraiment hâte de discuter avec toi. Je pense que ça va pouvoir aider pas mal de cops et on va pas sans plus tarder la laisser parler avec nous.
Oui, du coup, Justine, est-ce que tu peux te présenter aux cops et nous dire pourquoi tu es là aujourd'hui, même si vous l'avez vu dans le titre, on voulait parler un petit peu de travail, parce que c'est vrai que, comme avec Tania, on est entrepreneur, on n'avait pas forcément cette dimension-là du salariat à vous apporter, et on trouvait ça intéressant de parler avec quelqu'un qui, justement, a une expérience dedans. Un peu difficile, mais vous allez voir, la fin est heureuse, donc c'est le principal. Et du coup, Justine, est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as et quel métier tu fais ?
Alors, bonjour les cops. Donc Justine, 33 ans, région parisienne. Donc j'ai connu un épisode de burn-out sur l'année 2021. À l'époque, j'étais salariée dans le milieu bancaire, j'étais juriste. Je gérais un certain nombre de contentieux assez costauds et du jour au lendemain, et dans un contexte de très grande fatigue, je suis tombée malade sur tous les plans. Et c'est à partir de ce moment-là que le burn-out s'est imposé comme étant la description de ce que je ressentais. Donc je pense pouvoir aujourd'hui parler de ce qu'est le burn-out, ce que ça renvoie comme processus et que fort heureusement les fins heureuses sont possibles et voilà.
Et est-ce que le burn-out, c'est toi qui as mis le mot dessus ou c'est un professionnel de santé qui te l'a dit ?
Alors, c'est une bonne question. Alors moi, au départ, on en reparlera, mais moi, j'avais une vision à cette époque du travail comme étant, pour moi, pour être une bonne salariée, il fallait être un petit soldat. Et le petit soldat, il fonctionne avec des œillères, on travaille. Tant pis si on nous parle mal, tant pis pour les horaires, tant pis pour la fatigue. Donc pour moi, je me suis dit, bon, ok, c'est une période où je suis fatiguée, où j'ai pas trop le moral, c'est pas grave. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le fait que j'avais des crises de larmes sans explication. Et un jour, mon mari m'a dit, écoute, je pense pas que ce soit normal que tu sois dans cet état-là, sur des sujets de taf. Et j'ai consulté via Quer, vous savez là, le
truc Quer, ligne, okay.
Quer. Et une psychiatre qui, au bout de 5 minutes, m'a dit « Justine, on est face à un burn-out
oh, ». Wow. Donc c'était évident, quoi. Il n'y avait pas de questions à se poser.
Donc le burn-out, on peut identifier clairement des symptômes pour savoir si c'est ça ou pas.
Ouais. Alors le burn-out, juste un petit disclaimer, le burn-out, il faut un peu le distinguer pour moi de la dépression. Le burn-out, c'est vraiment un état d'épuisement tant physique qu'émotionnel sur une longue durée, mais issu d'un contexte professionnel. Genre, moi, très, très clairement, sur le plan privé, amical, familial, j'allais très bien. C'est vraiment mon contexte de poste, mon contexte professionnel qui me causait une grande souffrance. Donc, il faut vraiment faire la distinction. Et pour moi, les grands traceurs d'un burn-out, c'est qu'on se sent plus à la hauteur de ce qu'on nous demande. C'est qu'on nous demande des performances toujours plus importantes. C'est qu'on nous applique des méthodes de management qui sont pour la plupart toxiques, mais qu'on accepte parce qu'on considère que finalement, c'est peut-être normal. Et une grande solitude professionnelle aussi. Voilà. Pour moi, c'est les grands traceurs. Mais profondément, c'est une immense fatigue, tant émotionnelle que physique. Et je mets vraiment le point sur l'émotionnel, parce que des fois, on se dit la fatigue émotionnelle, c'est pas grand-chose. Il suffit d'aller boire un verre avec des copines. Non. Mais non, ça ne suffit pas. Donc voilà pour moi et les grands symptômes.
Et du coup, tout à l'heure, tu as parlé du fait que des fois, tu pleurais sans comprendre. Est-ce que c'était... Enfin, t'arrivais pas à mettre ça sur un fait au travail? Genre, par exemple, t'as eu un mail qui t'a saoulé, et du coup, tu t'es retrouvé stressé, et du coup, tu as pleuré? Ou est-ce que c'était genre, justement, il y avait rien de spécial, mais c'est juste l'ambiance pesante au général qui te crée ça?
Il y a plusieurs choses. Moi, j'étais tombée dans un truc où j'avais constamment l'impression de jamais être à la hauteur. J'avais beau avoir une performance chiffrée la plus optimale, j'avais beau arriver la première le matin dans le bureau, j'avais beau
tout faire
rendre mes trucs dans les deadlines qui allaient bien, j'avais l'impression de pas être suffisante parce que j'avais face à moi des gens qui me poussaient pour faire toujours plus, pour prendre toujours, faire de la gestion de fraude, faire de la gestion de dossiers beaucoup plus importants, etc. Oui, ce soir, il faudrait que tu finisses à 19h et c'est pas grave. Donc, j'avais ce truc d'estime de moi qui commençait à être cassé. Mais à l'époque, je comprenais pas.
T'avais pas conscience.
Voilà, j'en avais pas conscience. Donc, il y avait à la fois des mails toujours plus pressants. Donc, il y avait des choses très factuelles. Mais il y avait surtout un mindset qui se mettait en place de me dire mais en fait, je quittais le bureau avec l'espèce de valise à trimballer en me disant je suis inutile, quoi que je fasse, je ne sers à rien, je ne fais pas avancer la machine, alors que ce n'était pas le cas. Et je rentrais chez moi avec cette grande tristesse et ce sentiment d'insuffisance, et c'est pour ça que j'en pleurais et que j'y pensais, que je pensais au travail, par exemple, à 3h du matin, dans ma salle de bain, à pleurer sur ma baignoire, voilà.
Ouais, mais je pense que t'étais... Enfin, en tout cas, déjà, merci de te partager ça avec nous. C'est super intéressant. Je pense que ça parlera à beaucoup de gens. Mais clairement, je pense qu'on a tendance à sous-estimer l'importance que et la place que prend le travail. En tout cas, moi, j'ai jamais été en CDI. Mais rien que des fois, j'étais en alternance, ça m'est déjà arrivé de me retrouver à pleurer au travail. Parce que pas forcément, comme tu disais, pour un truc que j'avais mal fait, mais par un sentiment, en fait, un peu d'impuissance, parce que on m'en demandait toujours plus, il y avait des choses que j'arrivais pas forcément à comprendre, et c'était pas de la mauvaise volonté, tu vois, c'est juste que, c'était peut-être pas fait pour moi, ou en tout cas, on m'expliquait peut-être pas bien, ou je sais pas, il y avait des incohérences, et du coup, des fois, en fait, tu te retrouves un petit peu noyé dans ce truc où tu dis, en fait, le travail, ça devient un peu le centre de ta vie, et je trouve que, une fois, je me rappelle qu'on en avait parlé dans des podcasts, mais pour moi, c'est vrai que, sans s'en rendre compte, on passe tellement de temps au travail qu'au bout d'un moment, on a l'impression que c'est ça notre vie, alors qu'en réalité, pour moi, le travail, c'est un moyen de gagner sa vie, c'est aussi un moyen de sociabiliser, quand ça se passe bien, avec des gens, etc. Mais c'est pas le centre de notre vie, genre notre vie, en fait, elle se passe au travail, mais aussi, en plus grande partie, à l'extérieur. Mais c'est vrai que ça peut vite prendre le pas. Je sais pas, toi, Chloé, c'est déjà arrivé à un cas un peu similaire ou pas du tout?
Oui, mais déjà, c'est pas rien le travail, parce que tu passes quand même minimum 8 heures par jour. Donc en fait, j'ai l'impression que plus tu comptes les heures de sommeil, clairement, la plupart de ta journée, elle se passe là-bas. Donc si c'est un environnement qui est toxique pour toi, où tu te sens pas bien, etc., c'est... forcément, ça va avoir des répercussions sur ta santé mentale. Et oui, moi, j'ai connu un épisode assez court. J'ai travaillé 2 mois pour une entreprise avant de me lancer à mon compte. D'ailleurs, c'est ce qui m'a un petit peu dégoûtée du salariat. Et donc, du coup, je suis vite partie. Mais moi, j'avais des patrons qui vraiment étaient méchants, en fait. C'est-à-dire qu'ils me disaient... t'es nul. Genre vraiment, ils employaient des mots comme ça et ils étaient mais c'est nul ce que t'as fait. Comment tu peux nous rendre un truc pareil alors que je donnais mes idées et tout, je m'occupais de leurs réseaux sociaux. Et elle me disait même, elle se servait même de mon compte Instagram pour me faire des réflexions. Par exemple, elle me disait j'espère que ça va être mieux que ce que tu nous postes sur tes réseaux. Enfin, c'était vraiment j'avais un management assez compliqué et plein de fois ça m'est arrivé de pleurer et en gros elle me disait. Que j'étais juste une pleurnicheuse fébrile pour pleurer comme ça et que si j'avais envie de pleurer, j'avais plus intérêt à le refaire en open space, mais dans les toilettes. Voilà.
C'est
merveilleux.
Non, ouais, c'était vraiment hardcore et tout, mais ça a duré un court temps. Genre en fait, je pense que je suis partie à temps, tu vois. Et moi, j'ai eu cette chance-là, c'était de pouvoir le faire et peut-être d'avoir les clés en main et des personnes qui m'ont dit « mais va-t'en avant que ce soit trop grave ». Et je suis partie, et c'est peut-être pas ton cas, Justine, peut-être que tu es restée, et peut-être que tu t'en es pas rendu compte. Mais du coup, moi, la question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce que dans ton entreprise, tu avais des collègues à qui en parler, ou t'étais vraiment seule?
Alors, les collègues, je pense pas que ce soit des personnes qui écoutent le podcast, mais je suis très à l'aise avec ce que je vais dire.
Okay. Tu peux changer les noms, hein, t'inquiète
non,
pas.
Non, non, je vais pas dire de noms.
Ça
mais cette solitude, elle a aussi été faite... À partir du moment, si vous voulez, en fait, pour vous refaire un peu l'histoire, le samedi matin, je fais le marché avec mon mari. Bon, c'est un vrai petit plaisir pour moi, mais bref, un samedi matin, je devais m'habiller pour y aller, bref, et j'ai senti que mon corps, vraiment, n'était que douleur, comme si une équipe de rugby m'avait tabassé littéralement toute la soirée. Mmh. Et vraiment, je ne pouvais, enfin, voilà, j'étais en incapacité de sortir de mon lit, et je dis à mon mari, écoute, là, il y a un problème, je sais pas, soit je suis malade, soit je suis vraiment fatiguée, il va falloir que je dorme, mais il y a un truc qui va pas. Je sentais que mon corps ne répondait plus. Et à partir de là, donc je suis retournée sur quoi, j'ai trouvé... Bref, un médecin me dit, écoutez, on va, je vais vous mettre en arrêt une semaine, on va faire des prises de sang, etc. Bon, qui ont été très mauvaises.
Le premier, du coup, il n'avait pas décelé de burn-out, c'est
non.
Ça okay.
Le premier, en fait, si vous voulez, moi, j'ai fait une mononucléose. Donc ça, sur le plan physique, j'ai fait une mononucléose assez vilaine, qui est une maladie, qui est donc la maladie du baiser, comme on dit souvent, mais qui ne se soigne pas, à part se reposer. Donc, le plan physique n'allait pas, et le mental, si vous voulez, a...
Et
le mental
empiré,
est tombé, et a dû tomber au moment où, j'ai fait ce premier arrêt. Donc, pour revenir sur les collègues... Donc, j'ai fait un enchaînement d'arrêts maladie, le temps de gérer mon mental et mon physique. Et à partir du moment où j'étais en arrêt, je me suis sentie extrêmement seule vis-à-vis de mes collègues parce qu'il y a eu ce truc de dire « Ouais, t'es pas cool parce qu'on a plus de boulot que tu fais que t'es pas là, quoi.
Ouais. »
Oh là là, elles ont remis la faute.
Culpabilisé, en fait.
Alors qu'au départ, il y avait les petits surnoms, on faisait les petits groupes WhatsApp, on déjeunait ensemble, je te raconte un peu ma vie. Et à partir de là, il y a eu ce truc de... Bon, bah, repose-toi, mais reviens vite quand même. Voilà. Ouais. Bon, j'ai trouvé ça violent, surtout que ce qui a été encore plus violent, c'est que moi, j'ai été licenciée pendant mon arrêt maladie. Donc, oui, on peut licencier quelqu'un qui est en arrêt maladie. Je ne pensais pas que ça se faisait, mais c'est possible.
Je pensais que légalement, on était protégés et que c'était pas possible.
Souvent, même, j'entends les gens qui disent je vais poser un arrêt. Comme ça, ils vont pas pouvoir me virer, tu sais. Alors qu'en fait, comme quoi ?
Ça se fait de plus en plus depuis le Covid, malheureusement. Okay. C'est un peu ric-rac au niveau juridique. Il faut vraiment que les mecs en face aient un dossier béton. Enfin bref, ce qui n'était pas le cas. Et en fait, à partir du moment où il y a eu le licenciement, leur dialogue a un peu changé en mode « Ouais, mais tu sais, t'avais l'air fatigué. J'avais l'impression que t'étais moins sur tes dossiers. » T'avais l'air pas à fond dans ce que tu... Vous voyez le truc un peu de prendre à partie le discours que j'avais pu avoir de la direction ou de mon manager. Donc il y a un truc de rejet de ce que je pouvais ressentir en fait. Donc aujourd'hui c'est plus des personnes à qui je parle parce que je considère que c'est toxique. Et c'est des personnes qui auraient pu m'aider aussi dans la phase de licenciement à faire des attestations en disant bah voilà Justine, on bossait dans le même bureau depuis 3 ans. Donc... Et il n'y a pas eu ça. Il y a eu ce truc de crainte et il y a eu ce truc de ouais mais non.
Je
non,
pense que
voilà.
C'est... Est-ce que c'est pas dû aussi, par enfin, juste au management toxique, tu vois ? Parce que j'imagine que du coup, peut-être qu'elles ont été se plaindre quand toi t'étais pas là, par exemple, du fait que elles avaient trop de travail, que c'était surchargé, et peut-être que le management leur a dit non, mais c'est bon, enfin, on recrutera bientôt. C'est souvent le truc typique. Oui, on va recruter. Oui, on va recruter. Au final, ils recrutent jamais. Du coup, je pense que c'est un cercle vicieux parce qu'après, les collègues sont effectivement sous l'eau. Donc, en fait, ils finissent par remettre la colère sur la personne qui est pas là, alors qu'en réalité, toi, t'avais rien à voir dans cette histoire. C'est aussi la faute des managers. De prendre leurs responsabilités et d'embaucher s'il y a trop de travail, tout simplement, tu vois. Je comprends totalement.
Ouais, c'est possible qu'il y ait eu ce truc de que mon manager leur ait dit « Ouais, je suis désolée, hein, Justine, je sais pas ce qu'elle a, mais elle est pas là, c'est pas facile. » Mais très honnêtement, on en reviendra, mais la culpabilité que l'on ressent quand le burn-out nous est imposé comme étant le diagnostic est... Vraiment, pour moi, le plus gros du travail, du processus de sortie d'un burn-out, c'est de renverser la charge de la culpabilité. Il faut que la charge, in fine, elle change de camp.
Okay.
Vous n'avez pas à être coupable d'être en souffrance psychologique. Il faut accepter que quand vous êtes en burn-out, votre vie, elle soit entre parenthèses. Le temps de la guérison, et personne ne pourra vous dire « Oh, ça va, tu te reposes une semaine, ça va mieux. » Ou « Oh, le burn-out, normalement, ça dure 3 mois, après, ça va. » Non, s'il faut que ça dure un an, ça dure un an. S'il faut que ça dure 9 mois, c'est... Enfin, bref, vous m'avez compris. Dans l'acceptation, la douceur envers soi-même et se faire un peu violence pour plus être dans la culpabilité.
Et même, tu vois, moi, j'ai tendance à me dire, au contraire, que les personnes qui ont vécu un burn-out, au contraire, c'est pas du tout des gens qu'on devrait culpabiliser parce qu'au contraire, c'est des gens qui ont tout donné à tel point qu'ils ont même pas vu leur santé mentale partir, tu vois. Donc au contraire, au lieu de se sentir coupable, on devrait être en train de se dire waouh, c'est des gens qui ont été tellement à fond, tellement impliqués, qu'ils en sont arrivés à s'oublier, tu vois. Donc au contraire, au lieu de se sentir coupable, même si je comprends totalement que tu te sois ressenti peut-être comme ça au début, mais c'est vrai que d'un avis extérieur, moi en tout cas, c'est pas du tout cette vision-là que j'ai des gens qui ont fait des burn-out, au contraire.
Et si c'est pas trop douloureux pour toi, j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu comment le burn-out se manifestait dans ton quotidien, pour expliquer, en fait, c'est pas genre, ah non, mais j'ai de la flemme de me lever pour aller au travail. Non, c'est pas genre juste avoir la flemme, ou, tu vois, parce qu'on pourrait un peu accuser les gens de fainéantise, ou de dire, ouais, ils ont envie de rester chez eux pour être au chaud sous la couette et tout. Mais ça va au-delà de ça, en fait. C'est comme quand on te dit, bah, la dépression, c'est bon, sors un coup, prends un peu de temps pour toi et ça va passer. Non, c'est vraiment un état psychologique. Je crois que c'est même physiologique. Enfin, je sais pas si on peut dire ça. Je pense que c'est, enfin, ça relève même médicalement. Enfin, ça vient des neurones, de sécrétions et tout ça. Et du coup, ouais, si jamais tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se manifestait.
Je vais vous refaire un petit, une petite explication de comment fonctionne le cerveau. Je suis pas une experte, mais en gros, quand on est en dépression, le cerveau, il va sécréter ce qu'on appelle notamment de la cortisol et de l'adrénaline. Donc ça, c'est pendant un coup de stress, mais du fait de l'adrénaline, on peut survivre à des périodes de stress. Et quand on entre dans le tunnel du burn-out, la cortisol augmente et le cerveau n'est plus en capacité de fournir les hormones du bonheur, genre la dopamine, tout ce qui est la sérotonine notamment. Et moi, ça s'est caractérisé, parce que je pense qu'il faut avoir en tête que le cerveau, c'est une mécanique. Il faut le nourrir, le cerveau. Il faut le nourrir avec des petits plaisirs au quotidien, avec des gens qui nous veulent du bien, etc. C'est vraiment important.
Ouais.
Moi, mon burn-out, je l'ai ressenti comme étant caractérisé par l'épuisement émotionnel. Il y avait l'épuisement physique du fait de la mononucléose qui faisait que, vraiment, typiquement, je marchais 10 minutes. J'étais vraiment une grand-mère de 80 ans. J'étais essoufflée. Il fallait que je me souvienne. Je m'assieds sur le rebord des maisons de ma rue. Putain, c'est pas possible. J'avais le palpitant de ouf et tout. Bon, je suis pas une grande sportive, mais là, c'était quand même un signe. voilà. Et l'épuisement émotionnel, le gros du travail dans un burn-out, c'est de rebâtir et de reconsidérer son estime de soi, qui n'est plus, mais plus du tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tous les pans de ta vie qui sont impactés par cette dévalorisation que tu fais de toi, ce qui fait qu'en fait, au plus dur du burn-out pour moi, je passais mes journées allongée dans mon lit, à regarder le plafond, à puer la mort parce que j'étais tellement fatiguée que me laver, je n'avais rien à faire. Donc c'est quand même une image de soi qu'on renvoie aux gens qu'on aime qui est compliquée, mais je peux vous assurer que dans ces moments-là on s'en fiche en fait de ce qu'on renvoie, on est dans notre souffrance, donc il faut accepter un peu de tomber de toucher un peu le fond de ce qu'on peut être dans le mal-être. Donc moi il y avait ce truc de ne plus, en fait t'as plus l'énergie émotionnelle de prendre soin de toi, ça c'est quelque chose qui revient après avec le temps petit à petit, mais c'est surtout que t'es trop fatigué émotionnellement pour laisser la place à du bonheur et à une considération positive envers toi. Je m'explique dans le sens où je pouvais regarder toutes les séries les plus drôles du monde, genre pour moi The Office, ça me fait en principe mourir de rire, mais là j'étais stoïque, genre vraiment les bras croisés en mode ah ok je suis censée rire. Et au-delà de ça, moi, j'ai eu ce truc de recul un peu social. Parce que comme je partais du principe que je n'avais aucun intérêt sur le plan professionnel, alors pourquoi, affectivement, je serais intéressante? Parce que comme j'ai été rejetée sur le plan professionnel, je vois pas pourquoi on me donnerait des qualités sur le plan amical. Donc, il y a eu des moments où je parlais pas à mes copines, en fait, ou à ma famille, quoi. Parce que j'avais l'impression que je leur servais à rien, que j'allais leur faire perdre leur temps à s'intéresser à moi. Et ouais, ça va loin parce que, en fait, l'estime de soi, moi, je l'avais perdue sur le plan professionnel, mais ça infuse tous les pans de ta vie. Et moi, j'avais mes potes que je big up à elles et elles sauront qui c'est. Je vais pas faire une liste de courses des potes, c'est pas l'endroit. Mais il faut accepter que les gens disent du bien de vous. Même si t'as l'impression que t'es la pire des personnes et que tu seras la pire des salariés toute ta vie, que c'est normal quand t'es licencié, c'est normal quand t'es fait des remarques, des trucs, quand t'es gueulé dessus, peut-être à une réunion. Il faut accepter que t'aies une pote qui dise « Meuf, je pense à toi, t'es quelqu'un de bien, tu vas rebondir, ça prendra du temps, t'inquiète, mais je suis là avec moult cœurs de toutes les couleurs. » Au début, tu vas vouloir répondre un truc genre « Mais non, c'est parce que t'es trop gentil, mais regarde-moi, je suis une grosse loque, je pue la mort, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ça fait 3 semaines que je fais que dormir et regarder le meilleur pâtissier en boucle parce que j'ai pas d'énergie. » Et petit à petit, il faut essayer de garder le lien autour de soi parce que c'est ça qui sauve aussi. Il faut s'entourer d'une safe place émotionnelle avec ses amis. Donc voilà, en fait, il faut, comme c'est un grand épuisement, il faut accepter de beaucoup se reposer, de baisser les armes sur le fait qu'on ne gère plus rien chez soi. Genre, on fait pas les courses, on fait pas le ménage, on fait pas les trucs. Il faut avoir quelqu'un, un conjoint, une mère, ce que vous voulez, un tonton qui s'occupe de vous et vous êtes un peu comme un enfant et voilà, on prend soin de vous. Et après, vous remontez la pente. Mais c'est... voilà. ma réponse.
Et cette période, elle a duré combien de temps pour toi? Et du coup, t'étais seule ou pas?
Elle a duré de avril à septembre. Okay. Voilà. Donc,
un petit 6 mois, un peu voilà. Moins de 6 mois. Ok.
Voilà. J'ai toujours été très entourée amicalement et sur le plan personnel, mon mari a été très... très à l'écoute. Donc non, j'étais très entourée. J'avais vraiment chaque jour des messages de mes amis, de ma mère qui m'appelait, etc.
Super.
Et en fait, ce qui m'a sauvée, c'est de passer une partie de cet arrêt dans le sud chez ma mère parce qu'il faisait beau, parce que je faisais rien de spécial, hein, vraiment. Je faisais des tours de jardin, j'allais voir les arbres fruitiers, de temps en temps, j'enlevais des mauvaises herbes et tout. Il y a eu un truc un peu thérapeutique de s'occuper du jardin. D'ailleurs, je pense que c'est connu pour être thérapeutique, comme les chevaux, etc. Mmh. Et donc oui, j'ai été entourée. J'étais entourée, mais parfois dans ce contexte-là, en fait, il y a un truc qu'il faut déconstruire aussi, c'est que, et je rebondis sur ce que tu disais, Tania, c'est que je pense que l'époque de nos grands-parents ou même de nos parents, le travail, il fallait vraiment... Si on peut faire 20 ans dans une boîte, c'est bien. Parce que le travail, c'est très important socialement, blablabla, il faut fermer les yeux. Et en fait, on en tirait notre valeur du fait du travail. Et moi, j'étais comme ça, parce que j'ai été élevée par des parents comme ça. Et aujourd'hui, je considère sincèrement que, ok, j'ai envie de bien travailler dans mon prochain boulot, ok, j'ai envie de bien m'entendre dans les équipes, mais c'est pas ça ma valeur. Mmh. En fait, ma valeur, c'est Justine, comment je suis, quel est l'amour que je me donne à moi-même, quel est mon propre... comment je place mon curseur de management vis-à-vis de moi, comment je suis en amitié, comment je suis en amour, comment je suis au sein de ma famille, quel positionnement je me donne dans ces sphères-là. Et le travail, c'est... Ouais, le travail n'est plus le cœur de...
Voilà. Mais je pense que t'es dans la bonne optique. Moi, je trouve ça beaucoup plus important d'essayer de prendre justement la juste place avec comment t'es empathique ou pas avec les gens. Est-ce que... pour moi, c'est plus les relations sociales qu'on va avoir hors du travail qui comptent que ce qui se passe dans le travail. Même si, comme on dit, on y passe beaucoup de temps. Mmh. Au final, moi, je sais qu'on me parle souvent de confiance en soi. On me demande beaucoup comment je fais, quels sont mes conseils, etc. Et moi, je leur dis, écoutez, le physique, pour moi, c'est une partie. Parce que, bon, j'en parle souvent sur mon compte. Mais je dis, mais au final, la confiance en soi, c'est tout un autre pan qui est beaucoup plus psychologique. Et comment tu fais pour avoir confiance en toi, pour moi, c'est avec des petites choses, en fait, que tu vas avoir où t'es sûr de toi sur ces petits sujets-là. Genre, est-ce que je suis à l'écoute de mes amis? Est-ce que je suis à l'écoute de ma famille? Est-ce que je suis quelqu'un sur qui on peut compter? Est-ce que je suis quelqu'un de drôle? Est-ce que je suis quelqu'un de... Tu vois, plein de petites choses comme ça, on n'est pas obligé d'être tout, tu vois, à 100%. Mais quand t'as déjà ces petits piliers-là que t'as, en fait, derrière, tu vas être beaucoup plus confiante dans la vie de tous les jours. Et même si tu te chies sur des trucs sur lesquels t'arrives pas, c'est pas grave, en fait, que tu sais que sur certaines choses, t'as de la valeur, tu vois.
Et j'arrive pas à comprendre comment on en est arrivé à ce management là sans qualité humaine, justement. Enfin, nos qualités humaines ne sont pas valorisées, ça va être que genre productivité, et genre le reste on s'en fout, parce que je me dis, les gens qui t'ont provoqué ça, mais genre comment tu peux genre
dormir la nuit tranquille,
oui, en fait j'arrive pas à comprendre comment ces gens ils peuvent agir comme ça. Et peut-être qu'ils s'en rendent pas compte, on peut peut-être essayer de les dédouaner, mais j'en sais rien. Mais quand même, après ils ont vu le résultat, ce que ça fait et tout, et je me dis, on est entre humains, bordel, genre toi, tu dirais quoi à ça?
Mon mal-être, il s'est personnifié sur une personne, que je ne vais pas donner son prénom.
Ton boss, du coup?
Oui, mon boss direct. Il y a une forme de manipulation, je pense. Dans ces cas-là, je dis pas que c'est un pervers narcissique, c'est absolument pas le sujet. Mais il y avait ce truc de... En fait, il avait sa propre pression qui lui était imposée par la direction générale, et il était dans l'incapacité de faire un filtre vis-à-vis des gens qui travaillaient pour lui, donc en l'espèce moi. Donc si vous voulez, il y avait pression de la direction, bam, Justine, elle prend pour son grade, sans filtre, etc. Alors que je n'avais pas à prendre sur mes épaules la pression directe, parce que moi, j'étais pas la directrice du service, j'étais une exécutante, j'étais la juriste sur mon portefeuille de dossiers, et je faisais mes missions, quoi. Donc il y a eu ce truc-là, et très honnêtement, je lui ai indiqué que j'allais pas bien. Il y a eu des mails, je suis allée voir la médecine du travail. Je me souviens que par deux fois, en allant aux toilettes à la banque, je suis tombée parce que j'ai une de mes jambes qui a lâché. Et je pense que, et peut-être genre 5 jours après, je me mettais en arrêt. Et je suis allée le voir, je dis, écoute, il y a quelque chose qui va pas. Je me sens extrêmement fatiguée. Et sa réponse a été de dire, regarde tes RTT. Si t'as un RTT, tu poses un RTT, le lendemain, ça devrait aller.
Ouais, ok. Ouais. Minimiser, en fait. Minimiser,
voilà. Vraiment. Bon, ce qui peut être une solution pour quelqu'un qui n'est pas en burn-out, sauf que moi, je considérais que, en fait, il y a deux choses. Soit tu te sens fatigué parce que c'est une période de bourre, et en effet, après, tu poses des jours et ça va mieux. Sauf qu'en fait, la fatigue chronique où t'as beau dormir 10 heures par week-end, par nuit, ça ne change rien, c'est qu'il y a un problème. Et je pense qu'il n'a pas réalisé qu'il était toxique. Parce qu'il y avait ce truc un peu de miel, de dire « Ouais, je sais, c'est pas facile, mais tu sais, pour moi, c'est encore plus difficile. » Donc, il y a ce truc de qui, en sous-texte, veut dire « En gros, ferme-la, quoi. Ferme-la parce que je te fais le luxe de pas être à ma place. » Et en fait, c'est aussi pour ça qu'après, on encaisse, parce qu'on se dit « Mais ouais, pourquoi je m'exprime ?» Il faut vraiment que j'avance. Comme un cheval de trait, blablabla. Non. Et en fait, le truc, il part de là. Et c'est de là que la culpabilité, elle se nourrit. C'est de là que c'est pas grave, je suis fatiguée. Mais, et c'est de là aussi qu'on fait des erreurs professionnelles. Et c'est de là aussi qu'on grossit peut-être un dossier contre nous. Donc, c'est ça qui est pernicieux, quoi.
C'est-à-dire qu'on grossit un dossier contre nous aussi.
Bah, en fait, à partir du moment où les gens sont pressurisants sur nous et qu'on nous fait comprendre qu'on n'a pas grand chose à dire, mais que oui, c'est stressant, mais qu'on n'a pas grand chose à dire parce qu'on n'est pas, on n'a pas leur pression qu'eux ils subissent, on peut faire des erreurs. Donc moi j'étais dans le juridique, donc il y avait peut-être, genre, je sais pas, une déclaration de créance que j'aurais pu mal faire, donc les intérêts de la banque auraient pu être mal représentés, etc. Et en fait, c'est à partir du moment où on ne s'écoute pas et on continue à subir comme un petit soldat, à partir du moment où tu, malheureusement, t'enchaînes des petites erreurs d'inattention, de négligence qui sont faites, qui sont issues de ta propre, de ton propre épuisement, que malheureusement, par la suite, ils peuvent s'en servir pour dire, tu vois, je te licencie parce que ma liste de courses, elle est comme ça.
Oui, oui, d'accord, voilà, ok.
C'est ça.
En fait, c'est parce que t'es tellement fatigué que forcément, quand quelqu'un qui est fatigué psychologiquement, il fait plus d'erreurs. Et donc après, ça leur laisse le potentiel de dire, ah bah regardez, en fait, nous, c'est pas qu'elle est fatiguée le problème, c'est qu'elle fait des erreurs. Sauf que c'est contourner le problème pour faire des raccourcis, quoi.
Et donc du coup, d'après ce que tu nous as dit, voilà, il te mettait la pression, il était pas forcément à l'écoute de tes alertes nombreuses que tu as faites. Et tu nous as dit aussi qu'il, au niveau des missions aussi, qu'il t'avait, entre guillemets, mis un peu de côté.
Ouais. En fait, il y a eu un truc assez caractéristique. Moi, j'ai pas été embauchée pour faire de l'archivage. Donc vraiment, j'ai un master en droit qui fait que normalement, c'est pas vraiment dans mes missions. Je dis pas qu'il y a de sous-métier, mais en fait, un jour, on m'a dit, oh là là, enfin, ce manager m'a dit, oh là là, on est en retard pour faire les archives, etc. Alors que c'était vraiment une période de grosse bourre sur mes activités. Il m'a dit, vraiment... tu fais ce que tu peux, mais il faut que tu fasses l'archivage et tes missions et les fraudes et les machins, parce que c'est une période où on avait beaucoup de fraudes à gérer et c'est moi qui les gérais. Et en fait, je me suis retrouvée en plein été à soulever des cartons, à faire les étiquettes et tout, et à descendre à la cave du truc sous une chaleur pas possible. J'étais toute seule, j'aurais pu me péter le dos littéralement. Et là, je me suis dit, waouh, on me traite pas très gentiment quand même. Mais à ce moment-là, j'étais dans un truc de me dire, ouais, c'est pas normal, mais bon, je le fais pour l'équipe, pour qu'on ne fasse pas de réflexion, comme ça lui sera content, comme ça la direction sera contente, et moi, je vais peut-être récolter quelques lauriers et tout. Et en plus, moi, pour revenir là-dessus, le burn-out, il touche beaucoup les gens qui sont perfectionnistes, et moi, je pense l'être, et très dur avec moi-même. Donc moi, j'ai voulu faire ça vraiment en petits oignons, de changer, pour que ce soit parfait. Et donc, à partir du moment où on m'a dit... en gros, fais tout ça en plus de ton quotidien et qu'on disait pas au reste de l'équipe de faire cette mission-là et que c'était que Justine qui devait faire ça. Ça a été un premier...
Ouais, en fait, ça t'a fait te poser des questions alors qu'en fait, toi, tu donnais ton maximum. Donc, tu dis, mais en fait, pourquoi est-ce que c'est à moi qu'on demande de faire ça alors que je donne déjà mon max sur tout, quoi.
Il y a eu ça et il y a eu un autre truc qu'on m'avait promis, une évolution professionnelle en termes de responsabilité, de rémunération, tout ce qui va bien. Et évidemment, j'ai appris le jour même dans une salle de réunion que, ah bah en fait non, ce sera pas toi parce que t'as tout ce qu'il faut pour, mais pour des raisons de conflit d'intérêts, on préfère que ce soit quelqu'un qui est plus vieille que toi mais qui a pas les compétences. Donc ça a été un truc où je me suis dit, mais en fait, pourquoi je donne ? Pourquoi je continue de donner en fait ?
Clairement.
Voilà. Donc il y a eu plusieurs choses.
C'est vrai que j'ai oublié dans la liste qu'il y avait aussi le manque de valorisation et la non-reconnaissance des choses bien que tu faisais. C'est vrai qu'on... Ils ont toujours tendance à dire quand ça va pas, mais quand ça va bien, il n'y a personne qui vient te féliciter. Donc ça, c'est un peu compliqué aussi à gérer.
Donc ouais, à partir de là, ça a un peu remanié les cartes des rapports au sein de l'équipe, parce qu'il y a des gens qui ont connu une ascension, qui ont connu des revalorisations salariales, et moi, évidemment, l'enveloppe du budget ne permettait pas ma revalorisation. Pourtant, ma performance chiffrée était là. Et voilà, c'est un grand marqueur c'est une grande cause de burn-out, c'est que on donne beaucoup pour peu de reconnaissance. Voilà.
Et du coup, à ce moment-là, est-ce que tu t'es dit, Bah voilà, vu que j'ai été alertée la médecine du travail, j'ai envoyé des mails et tout. Est-ce que pour toi, tu t'es dit, on sait jamais aussi, c'est peut-être... est-ce que tu pensais déjà à l'après en te disant, peut-être qu'un jour, ça pourra me servir d'avoir prévenu ?
Oui, il y a eu un truc de instinct de protection, bizarrement. Mais j'étais vraiment dans le truc de il faut que ça marche, il faut que ça dure dans le temps, dans ce métier, auprès d'eux, je vais continuer à me donner, et puis peut-être que c'est moi qui n'utilise pas les bonnes méthodes, etc. Alors que, par exemple, on travaillait beaucoup avec une avocate qui passait son temps à dire, mais en fait, Justine, moi, j'ai aucun truc à dire sur elle. Elle est très pro, ses mails sont très clean, elle me fait avancer sur les dossiers, elle a un regard d'expert, etc. Donc, j'aurais pu me baser là-dessus pour continuer, etc. Mais ça n'a pas suivi parce que c'est pas elle, c'était pas elle mon manager, ni mes collègues. Donc, voilà.
Disons que ça fait un petit plus, mais ça suffit pas quand les gens qui sont proches de toi sont pas dans le même sens, quoi.
Mais j'ai hésité à aller voir la médecine du travail, en fait. Parce que moi, j'avais une image de la médecine du travail comme étant pas forcément quelque chose d'efficace, qu'on ne va voir que quand on prend un poste pour s'assurer qu'on n'a pas mal au dos, etc. Ouais. Et en fait, moi, la médecine du travail, je l'ai vue quand j'étais déjà en arrêt, en fait. Okay. Moi, j'ai fait des mails pour dire que j'étais en souffrance avant l'arrêt, mais quand je suis allée... D'ailleurs, c'est rare, les gens, les salariés qui vont voir la médecine du travail, donc elle était assez étonnée de me voir. Et je lui ai expliqué que j'avais une mononucléose, etc. Elle m'a dit, mais à votre âge, normalement, une mononucléose, ça fatigue pas. Et tout. Je dis, écoutez.
Mais sérieuse ou quoi C'est dingue, la mononucléose, j'ai l'impression même t'as 10 ans, t'es fatiguée. Hein.
En fait, en principe, passé 30 ans, t'as moins de chances d'avoir une mononucléose fatigante. Normalement, à 30 ans, t'as des mononucléoses, tu les sens même pas passer. Moi, je les sens passer beaucoup. Ouais. Et en fait, elle m'a fait parler, et je me souviens très bien, à partir du moment où elle m'a fait parler du contexte du travail, en fait, je suis arrivée dans son cabinet, j'avais une tension hyper basse, où elle m'a dit vraiment, vous devez vous reposer parce que vous êtes genre 8-9 peut-être. Et elle m'a fait parler du boulot, et là je suis montée à 13. Okay. Genre, vraiment, mon palpitant il a fait bras, et elle m'a dit, ah, vous êtes. Ça va pas très bien là, vous rentrez en taxi, j'espère. Et elle m'a dit, vraiment, vous rentrez en taxi, je vais vous voir monter dans le taxi, vous allez pas prendre les transports comme ça. Et après, elle m'a dit, mais je vais vous aider, on va faire un dossier. Donc, du coup, j'ai un gros dossier qui a été constitué, quoi.
Ah, elle a été ton alliée, finalement.
Ouais, complètement. Ouais, ouais.
Ok, donc ne pas hésiter à aller voir la maîtrise du travail.
Ils sont là pour ça.
Et je pense qu'ils sont peut-être davantage sensibilisés aujourd'hui à ces questions-là.
Tout à fait.
Et je trouve un truc aussi qui était intéressant avec la médecine du travail, où moi, personnellement, à chaque fois que j'y étais, c'était pour le petit bilan, là, quand t'arrives sur l'entreprise, voilà, ça va, tu fais combien de kilos, tu fais quelle taille, ok. Mais je pense que ce qui est bien, c'est que c'est pas, enfin, en tout cas, moi, dans mon cas, à chaque fois, c'était pas des gens qui étaient associés à l'entreprise. C'était, certes, la médecin qui était associée à l'entreprise, mais elle était pas dans les locaux, elle connaissait pas les managers, etc. Donc, je trouve que c'est assez simple de parler avec eux, je pense, en tout cas, parce qu'ils sont dans un terrain neutre. Alors que tu vois, peut-être les RH, moi j'aurais eu plus de mal dans mes anciennes entreprises parce que limite elles peuvent copiner avec les boss, les connaître personnellement, etc. Et je trouve que c'est plus dur de parler à une RH, non ?
Alors, moi j'ai une très mauvaise expérience des RH au sein de la banque, pas les RH de mon prochain emploi, bon ça on y reviendra. Oui, pour moi les RH c'est un peu un double tranchant, même si t'as beau avoir le mot humain dans RH, je suis désolée pour les cops qui sont RH, cœur sur vous si vous faites bien votre boulot, mais parfois il y a un truc quoi de conflit d'intérêts en disant oh, tout ce que tu vas me dire je vais le dire à la direction et après on va faire un petit dossier, il y a un truc un peu comme ça, qui moi fait que j'étais pas forcément en confiance et puis c'est des gens que je voyais pas vraiment etc, et oui je me suis sentie très en terrain neutre en fait, je lui ai vraiment dit voilà je me sens pas bien. Factuellement, voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je suis suivie. Je prends des antidépresseurs. Bon, ça, on n'en a pas parlé, mais moi, j'ai eu le besoin de prendre des antidépresseurs. Et elle ne m'a pas du tout jugée. Elle a trouvé que c'était très grave ce que je vivais. Et elle m'a dit, prenez le temps qu'il vous faudra. S'il faut, moi, j'appuierai une demande de retour mi-temps thérapeutique, etc. Donc, Non, ça a été une belle rencontre pour moi. La médecin a été très... une grande douceur et une bonne écoute.
Et du coup, comment ça s'est terminé finalement est-ce que la médecine du travail t'a finalement aidé à constituer un dossier et il y a eu une confrontation avec justement ton boss est-ce qu'il y a eu t'as été en arrêt maladie, il y a eu peut-être la sécurité sociale. J'avoue que je ne sais pas trop comment ça
Alors,
se passe.
Alors, plusieurs choses qui sont intéressantes. Enfin, toutes vos questions sont intéressantes. Mais... Alors, moi, il y a eu un grand moment. Il y a eu un grand moment très compliqué dans le sens où, en fait, donc j'ai été licenciée en plein arrêt. Donc, j'ai reçu, comme j'étais dans le sud, je l'ai reçu par mail. Donc, là, recevoir à l'arrière par mail, c'est un délire, mais bon, bref. Et j'ai été convoquée à ce qu'on appelle un entretien préalable au licenciement, où en gros, en effet, on confronte les parties pour voir si en gros, on peut faire autre chose qu'un licenciement en mode rupture conventionnelle ou pas. et là l'entreprise expose qu'il te reproche, etc. Donc moi ma mère était avocate et j'ai été suivie par un avocat pendant toute cette période qui m'a dit écoute, même si vous êtes épuisée, il faut absolument que vous alliez à cet entretien. Il faut que vous y alliez avec, si possible, un collègue qui est genre représentant du personnel DP. Quoi. Alors, je vous disais tout à l'heure que la plupart de mes collègues m'avaient tourné le dos et je m'étais sentie seule, mais il y a une collègue qui m'a toujours accompagnée et qui a toujours été, qui bossait pas en direct avec moi, qui était dans le back office, mais avec qui j'avais des réunions communes, etc., qui était elle-même en souffrance, mais pas au même stade que moi, et qui m'a accompagnée. Et ça a été un moment très difficile, l'entretien préalable. Je me souviens d'avoir remonté la rue jusqu'à la banque. Et en fait, moi, on m'avait dit, bah, il y aura la RH, toi et ta collègue. Et en fait, mon manager était là. Et en fait, il m'a regardée avec un sourire, en fait, en mode, tout va bien. Franchement, tout va bien entre nous, quoi. Et j'exagère pas, je l'ai vu traverser la rue, me regarder comme ça. J'ai eu un palpitant de malade et je suis tombée à genoux par terre, en fait. Genre vraiment, mon corps est tombé d'angoisse à l'idée de me confronter à lui. Et il y avait cette espèce de, je vais être vulgaire, pardon, de putain d'assurance sur son visage et de fait d'annihiler la propre souffrance que moi je pouvais vivre, en fait, et que j'ai trouvé dégueulasse. Et j'ai manqué de m'évanouir deux fois pendant cet entretien. Et en fait, moi, je suis partie du principe que je les ai laissés dire ce qu'ils avaient à dire sur moi. Et ils n'arrêtaient pas de dire « Mais parle !» Et moi, les seules choses que j'ai dites, c'est « Aujourd'hui, je vis un épisode de maladie professionnelle. Vous avez face à vous, j'ai en ma possession un dossier de la médecine du travail que je serai amenée à produire au prud'homme si je le décide. J'ai subi un management tout à fait toxique et une pression en continu. Et je leur ai dit ça et je leur ai aussi dit, dites ce que vous avez à dire, on clôture. Moi, je passe à autre chose dans ma vie et vous verrez si je donne suite ou pas sur une action.
Et t'as été au prud'homme du coup ou pas finalement ?
Je n'ai pas été au prud'homme parce que d'une part sur un plan financier, je sais que c'est pas l'argument le plus sexy, mais c'est un argument. Je n'allais rien en gagner si c'est juste pour payer un avocat. Et en plus les prud'hommes ça dure très longtemps.
Oui, c'est
pour
l'instant
c'est genre 3 à 5 ans. Et j'avais pas la ressource émotionnelle pour me lancer là-dedans, retrouver des mails, constituer des dossiers, vérifier les dossiers,
oui,
aller aux audiences,
le moment, quoi.
Et attendre les requêtes, les machins. Je me suis dit voilà.
Petite question, parce que les prud'hommes du coup tu es obligé de faire ton dossier dès que t'es licencié, ou est-ce que tu peux le faire a posteriori? Parce que c'est clair que dans un cas de burn-out, t'as pas la tête à te battre avec des avocats, etc. Mais peut-être quelques années plus tard.
Je sais pas s'il y a une durée de... Je sais pas.
Okay.
Là-dessus, je sais pas. Moi, j'ai décidé de pas le...
De pas mettre ça en place.
De pas le faire.
Et du coup, après la confrontation, finalement, ça a donné quoi?
Après, j'ai reçu une lettre genre de 5 pages qui reprenait tout ce qu'il m'avait dit en disant « Oui, on valide le principe de licenciement pour telle et telle raison. » Moi, ma collègue qui m'avait accompagnée avait fait toute une attestation. En fait, ça a été la seule personne qui a bien voulu attester de la qualité de mon travail et qui a retranscrit en fait en continu l'entretien préalable pour le produire après à mon dossier.
Okay.
C'est aussi pour ça que je voulais qu'elle soit là. Donc, j'ai reçu la lettre officielle de licenciement avec tous les trucs qu'on doit recevoir pour le Pôle emploi, les certificats de travail, etc. Et après, j'ai eu un appel charmant de dire... « Bonjour, t'as encore des affaires dans les tiroirs et un coursier va passer telle heure, ok ?» Voilà. Donc c'est un peu comme dans les ruptures sentimentales moches.
Ouais.
C'est moche.
J'ai fait des affaires par la fenêtre.
Je me suis pris un dossier sur mon paillasson un jour et bon, ça a été émouvant parce que j'avais mis des dessins de mes neveux et nièces et voilà. Mais ça a été aussi le moment où c'était le silence radio sur mes anciens collègues et aujourd'hui, je sais que certaines essayent d'aller un peu à la pêche aux infos. Elles regardent mon LinkedIn, elles disent « Mais en fait, tu viens quoi ? Quand est-ce qu'on se voit pour en parler ?» Et il y a eu un moment où, en fait, elles racontaient... le peu que je leur racontais, elles le disaient direct au manager.
Ah, d'accord, dans la confiance, c'est mort.
Et là, j'ai été très énervée. Je suis plutôt gentille comme nana. Mais là, je leur dis « C'est mort
!»
Deux choses l'une. Soit vous arrêtez tout de suite, soit on arrête de se parler. Voilà. Il faut savoir se protéger aussi de ça.
Oui, bah oui, c'est clair. Trop bonne, trop conne, au bout d'un moment, ça y est.
Ouais.
Ça va 5 minutes. Les gens qui respectent pas la confiance que tu leur donnes, ciao.
Et du coup, aujourd'hui, comment tu te sens? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que t'as remonté la pente?
Alors aujourd'hui, j'ai remonté la pente. Je pense qu'on... comment dire, moi, ce que j'ai appris, c'est que l'estime de soi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est comme un jardin. Il faut le cultiver tous les jours, de mille et une façons. C'est-à-dire, je sais pas... prendre un thermos de café, se balader au soleil, regarder une petite série qui nous va bien, faire un petit plat qui va nous faire kiffer, appeler sa grand-mère. Enfin, il faut se donner du bonheur pour soi-même et par soi-même. Et il faut s'entourer de gens qui ne veulent que du bien dans toutes les sphères de sa vie. Donc c'est quelque chose que je fais tous les jours, c'est-à-dire que si j'ai envie de me faire faire un soin du visage, j'y vais parce que ça va me faire du bien. En fait, il y a plein de choses qui vont nourrir son estime de soi, mmh. et tout part de là véritablement. Donc je vais mieux, je vais bien mieux, je prends plus d'antidépresseurs, je suis plus en thérapie parce que ma thérapie est allée au bout de ce qu'elle pouvait donner et que j'ai reconsidéré à la fois ma façon de voir le travail. En fait, ce qui a été compliqué aussi pour moi, c'est qu'à partir du moment où le mental tombe et le physique tombe, t'as tous les petits traumas et les maux mentaux que tu peux avoir dans ta vie qui ressurgissent et qu'il faut que tu gères. En fait, tu peux pas gérer qu'un truc et après dire, bon, allez, j'ai des petits TCA, c'est pas grave, on verra plus tard. Non, il y a un truc de fond que tu dois faire sur tous les plans. Donc moi, je sais que j'avais une alimentation émotionnelle que j'ai aussi gérée à ce moment-là. Donc ça a été beaucoup de batailles en même temps.
Plein de choses en même temps.
Voilà, beaucoup de fronts. Mais donc aujourd'hui, je vais beaucoup mieux parce que ça va faire hyper cucu ce que je vais dire. Je suis désolée, mais il faut devenir sa meilleure amie. Il faut se donner beaucoup de douceur. C'est-à-dire qu'il faut... S'il y a des jours, genre si je suis en SPM et que j'ai envie de râler, manger du sucre, regarder de la merde sur Netflix, être un peu désagréable avec mon mari, c'est ok. Voilà. Et après, ça ira mieux, t'inquiète pas. Non, il faut accueillir son émotion, il faut accueillir sa fatigue, il faut accueillir les moments où on est pleine d'excitation. Et voilà, il faut considérer qu'on est la meilleure personne pour se donner de l'amour. Évidemment, les gens autour aussi. Mais, et c'est aussi c'est comme ça que... C'est en étant transparente avec son propre besoin émotionnel qu'on avance aussi. Et donc, c'est comme ça que chaque jour, je fais un peu la météo mentale en moi-même tous les jours en me disant, est-ce que je vais bien? Est-ce que j'ai besoin de douceur? Est-ce que j'ai plus besoin d'apprendre des choses?
Je t'écoute.
Voilà, je m'écoute. J'ai appris à beaucoup plus m'écouter.
Ouais, c'est super important.
En tout cas, ça fait trop plaisir de voir qu'aujourd'hui, ça va mieux. Mais c'est fou le recul que tu as. On a l'impression que tu as fait un travail sur toi de dingue. Et j'ai l'impression aussi que le développement personnel t'a pas mal aidé. Et bah nous, avec Tania, de toute façon, on peut que acquiescer ce que tu dis. L'estime de soi, c'est un peu la base de tout. Parce que quand t'as de l'amour pour toi, quand t'as de l'estime pour toi, bah tu te souhaites le meilleur. Et tu te souhaites le meilleur, que ce soit en amour ou encore au travail. Et bah parfois, c'est ce qui te donne la force de te sortir de situations qui sont néfastes pour toi.
Et aussi, du coup, est-ce que t'as peut-être des conseils, des outils qui t'ont permis un petit peu de... Bah, pas forcément de sortir totalement, mais de t'aider à aller mieux?
Alors, moi, il y a plusieurs choses. Je sais que là, pour diverses raisons, j'ai réintroduit le sport dans ma vie. Et que pour moi, aujourd'hui, le sport, ça va jouer un rôle d'antidépresseur, on va dire ça comme ça, dans le sens où quand je fais mon activité, je mets un peu mon mental de côté et je suis dans la réalisation de mon activité. Je sais que par exemple, genre la Zumba, le mardi soir à 19h45, il n'y a pas intérêt de me faire trop louper le cours de Zumba parce que j'ai l'impression d'être gilo pendant 45 minutes et c'est assez bon pour ce que j'ai, quoi. Mmh. Donc il y a le sport, l'alimentation, je me fous la paix là-dessus. Si j'ai envie de manger un grain, défoncer du granola, je défonce du granola. Si j'ai envie de faire un pokéball, je fais un pokéball. Enfin bref, je me lâche la grappe sur le sujet alimentation et globalement les choses vont mieux. Alors, en fait, ce qui est drôle, c'est que le jour où je faisais l'entretien préalable, je suis allée, j'étais en avance évidemment, et je suis allée à Nature et Découverte, qui était un magasin qui me fait toujours du bien à mon mental, pourquoi je ne sais pas. Et il y avait ce livre de Christophe André qui s'appelle « Imparfait, libre et heureux, pratique de l'estime de soi ». Et en fait, je suis descendue au rayon libre et j'ai vu vraiment ce livre devant moi. Moi, je crois aux signes un peu dans la vie. Mmh. Et c'est un livre qui vraiment t'explique ce que c'est que l'estime de soi, ce que c'est le travail de reconstitution de l'estime de soi, qui va t'expliquer très clairement qu'il y a des jours où tu auras des baisses d'estime de toi, mais que c'est ok. Et donc c'est un livre qui m'a accompagnée, qui est très facile à vivre, qui fait du bien, qui est surtout déculpabilisant. Donc ça a été la lecture. Je sais qu'il y en a qui font du journaling. Ça, c'est pas quelque chose, l'écriture, c'est pas forcément quelque chose pratiqué, voilà. Et je sais qu'il y a des musiques qui aujourd'hui me font beaucoup de bien sur mon moral. Donc j'y réfléchissais tout à l'heure, pour moi, il y a des... Enfin, moi, j'aime les musiques qui bougent, mais genre Beyoncé, Break My Soul, je sais qu'elle me fait du bien. Level Up de Clara.
Ouais, c'est ça, Ciara. J'adore aussi.
C'est quoi ça? Level Up. En fait, ça motive. C'est des trucs, ça te booste, genre.
Voilà. Et j'ai découvert un truc puisque j'étais amenée à reprendre des études, etc., pour notamment sortir du burn-out, il y a, si vous avez du mal à vous concentrer et que quand vous êtes sur une tâche dans votre travail et que vous voulez avoir un bon mindset et d'être bien, il y a des trucs sur YouTube qui s'appellent lo-fi, un peu ambiance café, bibliothèque. Et moi, je sais que ça me fait du bien.
Les lo-fi, L-O-F-I.
Oui, des fois, il y a marqué. Ouais.
Et ça, c'est des musiques un peu... Tu sais, les musiques esthétiques sur TikTok, c'est ça.
Et moi, je sais que ça me fait beaucoup de bien. Genre, les bruits de tasse ou les bruits de pages qui se tournent. Genre, je sais que ça m'apaise beaucoup et ça me permet d'être dans la performance, mais douce. Donc, voilà. Mes petites choses qui m'ont fait du bien.
Trop bien. Bah, je pense que merci déjà encore une fois d'avoir participé au podcast et je pense sincèrement que tous les outils et aussi le partage de ton expérience, ça va aider beaucoup de personnes, pas forcément qui sont en burn-out parce qu'on n'est pas obligé d'arriver à ce stade-là, mais même des personnes qui ont peut-être un mal-être au niveau du travail ou même des personnes qui ont un mal-être tout simplement parce que c'est pas... Je trouve que les outils que t'as donné, c'est pas forcément que pour le monde du travail, mais aussi pour la vie en général. Comme on l'a dit, prendre confiance en soi et s'écouter, c'est la base dans le perso comme dans le pro, donc vraiment c'est super bien.
Et j'ai envie de rajouter aussi qu'on n'est pas marié à son employeur. C'est vrai que parfois on est contraint par la contrainte financière parce qu'on a besoin d'avoir un salaire tous les mois, etc. Mais n'hésitez pas à chercher, même si ça fait pas longtemps que vous êtes dans une boîte et en fait finalement vous vous rendez compte que le management vous correspond pas du tout, n'hésitez pas à partir. Et il y en a marre de se dire non mais il faut minimum 2-3 ans d'expérience au même endroit. Non mais en fait si tu vas pas bien, si tu es en souffrance tous les jours, si c'est une torture pour toi, non, tu as le droit de changer. Et ça je trouve ça important aussi de le dire. Donc voilà, n'hésitez pas à divorcer et à partir. Voilà, c'est hyper important et comme bah apprendre toutes les clés aussi que Justine vous a données, vous faire accompagner, parler autour de vous, extérioriser, aller voir la médecine du travail, voilà toutes ces petites choses. En tout cas, j'espère qu'elles vous serviront et nous on va vous dire à bientôt et à la semaine prochaine.
C'est ça. Encore un grand merci, Justine.
Ouais, je vous en prie.
Merci à toi pour ton témoignage.
Voilà. Et bon courage aux COPS qui traversent de près ou de loin ce que j'ai pu vivre. Voilà. Cœur sur vous. Et si je peux dire une dernière chose, n'oubliez jamais que tout ce que vous pouvez ressentir, ça a une valeur. Et qu'il ne faut absolument pas le mettre sous le tapis pour ne pas déranger, parce que c'est dans l'éducation, parce que c'est la religion, parce que tout ce que vous voulez. Il faut accueillir et... verbaliser sur ce que vous ressentez dans tous les points de votre vie.
Bisous les cops!